Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute du 197e numéro de Métropolez-vous. Merci de votre fidélité à cette émission, lors de laquelle nous allons aujourd'hui nous intéresser aux transports en commun dans la métropole et même l'agglomération toulousaine. Depuis que le prix des carburants a connu une hausse vertigineuse, beaucoup d'entre nous ont reporté leur mode de déplacement de l'automobile vers le vélo ou les transports en commun, un phénomène encore accentué par la pénurie de carburant des dernières semaines, autant de raisons qui font de la politique et des projets métropolitains dans le domaine des mobilités un sujet crucial et très actuel. Nous avons évoqué ce qui concerne le vélo la semaine dernière, il était donc logique de consacrer le numéro suivant aux transports en commun, et lorsqu'il s'agit de transports en commun dans la métropole toulousaine, vient inévitablement sur la table le chantier de la troisième ligne de métro, dont l'avancement revient régulièrement dans l'actualité, non sans susciter parfois certaines interrogations et polémiques. Nous allons donc faire le point sur ce chantier au cours de cette émission, sans oublier de jeter un œil sur les autres activités de Tisséo, et notamment les lignes de bus Linéo et le téléphérique Téléo. Et pour faire le point de la manière la plus complète possible, je reçois une nouvelle fois Jean-Michel Latte, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, chargé des transports en commun, des déplacements et des nouvelles mobilités, et président de Tisséo Collectivité, la société qui administre et organise les transports en commun dans l'agglomération toulousaine. Bonjour monsieur le vice-président, merci d'avoir répondu à mon invitation.
Bonjour.
Nous allons tout de suite faire quelques rappels, ça me semble nécessaire, avant de faire le point sur le chantier de la troisième ligne. Est-ce que vous pouvez repréciser ce qu'est l'échéance prévue pour sa mise en service et si vous la maintenez compte tenu de l'avancement des travaux et de toutes les informations dont vous disposez à ce jour pour la suite du chantier?
Alors quand on se lance dans une aventure comme un chantier de métro, on part sur le long terme avec des phases administratives, juridiques, qui sont aujourd'hui terminées. La dernière autorisation importante, on l'a obtenue cette année, c'est l'autorisation environnementale. Là, on rentre dans la phase chantier lourd. Ce chantier lourd, il avait été annoncé pour la fin de l'année, il est toujours annoncé pour la fin de l'année. On va attaquer le gros œuvre, pour parler simple, qui devrait nous amener à 2026, où on aura le second œuvre. Et qui devrait nous amener à 2028. Fin 2028, c'est notre échéance d'ouverture de cette troisième ligne de métro.
Mise en service aux voyageurs fin 2028, donc vous maintenez cette échéance. Petit rappel aussi du trajet et des zones desservies par cette future troisième ligne de métro.
C'est une ligne très longue parce qu'elle correspond à la ligne A plus à la ligne B en longueur. On est sur 28 km, 21 stations. On part de la Bège, on passe par la Côte Pavée après avoir croisé Montaudran. On croise la ligne B du métro sur François Verdier. On croise la ligne A du métro sur la gare Matabiau. On repart vers le nord toulousain, vers La Vache, où on croise à nouveau le métro. Et puis on redescend, entre guillemets, vers Blagnac-Colombier en passant par les Sept-Deniers.
Nombre de passagers jour, j'avais en tête le chiffre de 200 000.
Voilà, on est sur un prévisionnel à 200 000. L'expérience des deux premières lignes montre qu'on va toujours au-delà du prévisionnel.
Et le nombre d'emplois desservis, parce que là, on est entre deux grosses zones d'emploi, entre l'Est et l'Ouest de
Alors,
la métropole.
Sans parler de nombre d'emplois précis, on était sur un système qui couvre un tiers des emplois de l'agglomération. Quand il sera en place, deux tiers des emplois d'agglomération seront desservis.
Et le nom, alors est-ce que ça va être troisième ligne, est-ce que ça va être ligne 3, ou est-ce que ça va être tout simplement, et ce serait logique, ligne C?
Alors ça sera ligne C, on a la ligne A, on a la ligne B, on aura ligne C. J'ai ouvert une concertation en particulier avec le Sicoval, avec les maires de Blagnac et de Colomiers, tout le monde est d'accord, ça sera ligne C. On aura à rebaptiser un axe train qui fait Arène-Colomiers, mais qui a souvent été appelé ligne C, mais qui en fait n'est pas du tout un métro. Il faut qu'on rebâtisse cet axe-là, parce qu'il faut garder cet axe-là qui reste intéressant.
Eh bien, merci, voilà, qui est clair et précis. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Nous allons les développer un peu plus tard, puisque dans l'immédiat, nous allons nous plonger dans l'actualité métropolitaine. C'est le moment de retrouver Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Nous commençons avec une information qui concerne les particuliers qui louent des appartements aux touristes. Toulouse Métropole renforce le dispositif d'encadrement des meublés de tourisme.
Depuis janvier 2019, Toulouse a mis en place l'enregistrement obligatoire pour toute personne qui propose une location à une clientèle de passage, que ce soit un meublé de tourisme ou sa résidence principale. L'autorisation dite du changement d'usage de locaux d'habitation est délivrée pour 2 ans, dans la limite de 2 logements par personne. En plus de la résidence principale, dans la limite de 120 jours par an pour ces dernières. Cette réglementation permet de juguler un essor incontrôlé des meublés, de protéger les résidents et d'assurer une offre touristique équilibrée sur le territoire. Toulouse Métropole propose désormais la création de périmètres de compensation à Toulouse et l'adoption d'un règlement. La compensation consiste pour toute demande de changement d'usage d'un local à transformer dans le même temps un local d'une surface au moins équivalente pour le mettre en location à bail au sein de la même zone. 3 zones de compensation ont été définies, le centre-ville, les faubourgs et le reste du territoire toulousain. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur au 1er novembre 2023 ou à la fin de l'autorisation accordée pour celles qui sont en cours.
Et puis, une nouvelle attendue depuis que le poste était vacant, après la nomination de Dominique Faure en tant que secrétaire d'État à la ruralité, le maire de Balma, Vincent Terrail-Noves, a été promu premier vice-président de Toulouse Métropole.
Oui, Vincent Terrail-Noves est depuis 2014 maire de Balma, 6e commune de la métropole avec plus de 16 000 habitants. Il a été réélu dès le premier tour en mars 2020 avec 65,37% des voix. Il succède donc à Dominique Faure, démissionnaire pour cause de cumul des mandats. L'ex-maire de Saint-Aurens a été élu député de la 10e circonscription de la Haute-Garonne en juin dernier et propulsé secrétaire d'État à la ruralité. Les délégations de Vincent Terrail-Noves ne sont pas modifiées. Serge Jop a quant à lui été élu 3e vice-président. Il lui a été confié une délégation dédiée au dialogue intercommunal.
Et nous terminons avec un événement qui va ravir les amateurs de culture scientifique et technique. Le festival Lumière sur le Quai a débuté à Toulouse et il se propose de vous embrouiller l'esprit.
Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour sa 8e édition, ce festival qui mêle art et science s'intéresse donc aux liaisons dangereuses entre la fiction et la réalité. Objectif, montrer les différents processus de tromperie ou manipulation à travers l'art qui vous embrouille le cerveau et vos capacités de raisonnement. Le festival est ouvert jusqu'au 6 novembre. Il clôture la grande exposition du Quai des Savoirs, Esprit critique, détrompez-vous. La prochaine exposition s'installera en février sur un thème brûlant puisqu'elle s'intitulera, et c'est une exclusivité Radio Présence, Feu et Méga-feu.
Un grand merci à Corinne Saint-Félix pour ce flash d'informations métropolitaines et Jean-Michel Latte. Dans ce flash, il y a une information qui était très attendue depuis que Dominique Faure a dû abandonner son poste de première vice-présidente de Toulouse Métropole après sa nomination en tant que secrétaire d'État à la ruralité. C'est donc Vincent Terrail-Noves, le maire de Balma, qui la remplace. Une réaction ?
Oui, j'en suis ravi. Vincent est un ami, c'est quelqu'un qui a une grande compétence, à mon sens, et je pense qu'il exercera sa mission en duo avec Jean-Luc Moudenc de la meilleure des façons.
Alors, certains n'auront pas manqué de remarquer, peut-être encore plus certaines, que c'est un homme qui remplace une femme. Vous savez que le sujet est sensible aujourd'hui, mais en fait, il y avait une certaine logique à ça.
Oui, il était 3e vice-président, donc il est monté naturellement. Mais je crois qu'il y a aussi une question de compétence. Je crois que c'est quelqu'un qui est reconnu. Et il est normal que dans l'évolution de la vie politique toulousaine, il progresse.
Et puis c'est un jeune élu encore, hein, donc
c'est pas tout à fait
quelqu'un qui est dans la vie active. Hein.
Voilà, c'est pas tout à fait un nouveau visage, mais quand même c'est un profil qui correspond, je crois, à ce qu'attendent aujourd'hui les citoyens. Des gens jeunes qui ont une vie professionnelle intense et une vraie compétence.
Merci d'avoir bien voulu commenter cette information. Nous revenons maintenant au sujet principal de ce numéro, l'avancement du chantier de la 3e ligne de métro et l'actualité des transports en commun TICEO.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, la seconde partie avec l'invité de ce numéro, Jean-Michel Latte, adjoint au maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole en charge des transports en commun, des déplacements et des nouvelles mobilités, et donc président de TICEO Collectivité. Nous reprenons notre discussion où nous l'avions laissée. Où en est le chantier de la 3e ligne à ce jour? Est-ce qu'il a rencontré des difficultés? Est-ce qu'il a connu des retards? Ou est-ce qu'il suit désormais son cours normal depuis que les effets de la crise sanitaire semblent enfin se dissiper?
Il suit son cours normal. La dernière étape, je le disais tout à l'heure, c'était l'autorisation environnementale. C'était la dernière étape juridique et administrative pour pour ce chantier. Là, on arrive dans la phase travaux. Il y a une phase qui a déjà été bien avancée, bien lancée, c'est la phase préparatoire. Avec les déviations de réseau, avec les carottages permettant d'évaluer la pollution dans le sol, avec les tests qui ont été réalisés, les fouilles archéologiques. Donc on est vraiment dans cette phase-là. On est aujourd'hui dans une phase qui touche aux arbres, puisqu'on a quelques arbres à couper. On replantera d'ailleurs 3 arbres pour un coupé. Et on est parti sur un chantier qui était susceptible de commencer en fin d'année, qui commencera en fin d'année. Le premier chantier, c'est un puits d'aération qui va être fait entre Ginestous et les Sept Deniers. Ça sera la première étape d'un chantier, mais qui basculera très vite dans une multitude de chantiers, puisqu'en 2023, on devrait avoir sur Toulouse et sur les villes avoisinantes une 40aine de chantiers simultanés qui vont être lancés.
On va y revenir à l'agenda des travaux. Lors des forages, des fouilles qui ont eu lieu, qui ont toujours lieu actuellement, est-ce qu'il y a des choses particulières qui ont été trouvées? Ça, c'est pour les passionnés d'histoire ou d'archéologie. Il y en a beaucoup à Toulouse.
Pas tant que ça, parce qu'on est sur un tracé qui est un petit peu éloigné du Toulouse antique, du Toulouse historique. Le seul endroit où on a fait quelques découvertes, c'est sur François Verdier, où on a trouvé des nécropoles. On savait qu'on allait trouver des nécropoles. On fait ça, bien entendu, avec les services de l'État. Et il n'y a pas eu de difficultés particulières. On n'a pas retrouvé, comme pour l'extension de Jaurès, de mâchoires de rhinocéros. Mais peut-être, on verra.
Il faut attendre que tout soit terminé. Alors justement, il y a encore des travaux préparatoires en cours. Quelles sont les zones concernées ou encore concernées?
Alors on a des travaux qui sont en cours sur la partie gare de Colomiers. On a des dispositifs en cours sur la proximité de l'aéroport côté Blagnac. On a des aménagements en particulier avec les arbres sur la Bège. Et puis sur le centre-ville, on a, il suffit d'y passer pour le voir, le grand chantier de François Verdier qui est en cours. On a un chantier sur Bonnefoy. Et on a terminé la semaine dernière des opérations sur l'Imeyrac. On a des micro-opérations qui continuent à être lancées.
Donc la phase suivant les travaux préparatoires, ça va être vraiment les premiers coups de pioche du vrai chantier de construction du métro. Et ça, donc, c'est fin décembre à peu près.
Voilà, l'espace est maintenant libéré, puisque le problème des travaux préparatoires, c'est de libérer l'espace, en fait. Hein. Que ce soit au niveau archéologique, au niveau réseau, à tout niveau, il faut libérer l'espace. On avait annoncé un premier chantier avant Noël. Au moment où je vous parle, ce chantier est prévu, organisé, il va se faire. C'est un puits d'aération, il y a beaucoup de puits d'aération sur une ligne comme ça. Et il est réalisé sur Sept Deniers et Ginestous.
C'est la zone des Sept Deniers et Ginestous.
Voilà, hein, c'est... mais je le répète, dès la rentrée 2023, on va enchaîner les chantiers avec la suite des grands appels d'offres qui vont être ouverts en novembre-décembre et qui se traduisent par l'intervention des entreprises lauréates.
Le pic des travaux est prévu entre 2023 et 2026, donc il y aura vraiment le gros œuf, ça va être à ce moment-là. Une quarantaine de chantiers tout de même en simultané.
Avec l'arrivée des 5 tunneliers qui se fera en 2023.
Donc vers la fin de l'année, je crois.
Voilà, ça sera très spectaculaire. Et puis le déblai, puisqu'il va falloir creuser dans des conditions assez classiques finalement, mais avec des déblais de terre importants. Et tout cela nous amènera à, entre guillemets, reboucher les trous en 2026. Période où on aura enchaîné le second œuvre, c'est-à-dire l'aménagement des stations, et puis la phase test qui aura lieu vers 2028.
Il y a une actualité toute brûlante, c'est un chantier qui va être assez spectaculaire, a priori, c'est celui autour du Monument aux Morts, qui peut s'annoncer comme très gênant pour la circulation automobile, parce que le carrefour devant le monument, boulevard Carnot, c'est le nœud de plusieurs lignes de bus. Il a été finalement décidé de déplacer le monument aux morts sur des roulettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous allez procéder et quand cette opération va être ou devrait être réalisée?
Alors c'est une opération qui a une histoire. Au départ, les ingénieurs avaient imaginé qu'on pouvait mettre en place la station au milieu de l'allée François Verdier avec la coupe de platane centenaire. C'était quand même difficile à accepter. Le maire de Toulouse n'a pas accepté d'ailleurs cette hypothèse-là et a demandé à Tisséo de revoir l'emplacement de la station. Donc la station a glissé vers le centre du carrefour, mais elle se trouve aussi sous le monument aux morts, et il est inconcevable de creuser 45 mètres sous un monument qui pèse plus de 1000 tonnes. Donc il y avait 3 hypothèses: le confortement, difficile avec le puits de 45 mètres sous le monument, il y avait le démontage qui pendant longtemps a tenu la corde, et puis il y a le déplacement. Le démontage pose un problème par rapport au fronton qui est en hauteur, parce que ce fronton, il n'est pas constitué uniquement de pierre, il est aussi constitué de béton. Et donc les monuments historiques craignaient que le démontage n'abîme ce fronton. Et donc on est parti sur l'hypothèse du déplacement, un système qui est peu développé en France, mais qui se fait dans d'autres pays comme l'Allemagne. L'Allemagne a eu des expériences importantes sur ça. Je lisais récemment qu'ils avaient déplacé une église de 12 km.
Alors ça, c'est...
quelque chose qui est équivalent à un autre monument. Nous, on va bouger de 32 mètres. C'est-à-dire que le monument va être posé sur roue. Il va être d'abord tourné pour passer dans sa partie étroite entre l'allée de platane. On ne touchera pas au platane. Et il sera positionné sur l'actuelle voie de contournement qui passe derrière. Et à la fin du chantier, il reviendra au millimètre près à l'endroit où il était à l'origine.
Il va être remis exactement à la même place.
Exactement.
Et a priori, il n'y a aucune raison pour que le monument souffre dans l'opération.
On fait ça avec le contrôle des monuments historiques. Et on va mettre autour du monument, c'est assez intéressant, une sorte d'exosquelette qui va le maintenir et qui va permettre...
Le protéger aussi.
Le protéger, voilà. Donc on est... Et puis on va profiter de cette situation pour faire des restaurations. On va profiter du fait qu'il est déplacé pour faire de la restauration, des choses qu'on aurait eu du mal à faire en l'état.
Il y a un appel d'offres pour la société qui va réaliser l'opération. On ne sait pas encore laquelle ça va
non,
être.
Non, voilà, c'est pour ça qu'on est sur une phase de préparatoire. Il y aura une décision avant Noël et l'entreprise adjudicataire devra assumer ce chantier qui sera spectaculaire. Le déplacement de 32 mètres se fera sur 2 jours à peu près, hein, en principe.
Est-ce qu'il va y avoir des conséquences, j'imagine que oui, sur la circulation à cet endroit qui, comme je le rappelais, est quand même une espèce de nœud très important. Il y a beaucoup
Bien
de
sûr.
Voies qui convergent vers cet endroit.
On ne va pas se mentir, un chantier de métro, c'est un chantier lourd. La ligne A, c'était le Grand Puy d'Esquirol, qui avait bloqué la place avec un immense trou pendant 2 ans. La ligne B, c'était Jaurès, avec ce changement de dispositif de voie qui s'était produit sur 3 ans. Et il y a eu une vingtaine de différences de carrefour organisées sur Jaurès. Ben là, on aura des chantiers lourds. On aura le chantier de Matabiau, qui va être important. On va avoir, bien sûr, le chantier de François Verdier, qui sera important. Mais on aura aussi des chantiers plus limités, plus modestes, mais qui seront quand même significatifs. Voilà. Mais l'enjeu, c'est quoi ? C'est d'avoir un système de transport inégalable. Quand on voit le succès des lignes A et B qui portent 2/3 des personnes qui prennent les transports en commun, on se dit que ça vaut le coup.
Et puis en plus, la crise de l'énergie en rajoute, si je puis dire, pour que les gens se dirigent de plus en plus vers le métro.
C'est
à
clair.
Ce propos, il a été annoncé un surcoût de 300 millions d'euros par votre collègue oui. adjoint en finance Sacha Brion il n'y a pas longtemps concernant la 3e ligne de métro. Quelle est la cause de ce surcoût et quelle partie du chantier concerne-t-il ?
Alors, ce n'est pas la cause, ce sont les causes.
Les causes, oui.
Les causes. On a eu l'effet Covid, on a eu l'effet guerre d'Ukraine, on a eu l'effet hausse du coût des matériaux, tout cela se combine. Il faut savoir qu'en France, pas seulement à Toulouse, en France, pour tous les grands chantiers lourds, je pense au Grand Paris, on est autour de 20% de hausse des coûts prévus. Hein. Quelqu'un qui fait réparer sa toiture, aujourd'hui, il sait que les coûts ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques mois.
Il y a une autre conséquence sur l'approvisionnement. Est-ce qu'il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement de certaines matières ou certains matériaux ?
Alors, quand je pense au téléphérique et à Téléo, on a eu des retards liés à des composants électroniques. Voilà. Alors, il semble quand même que les choses soient reprises, qu'on ait dans les mois qui viennent, je touche du bois, une amélioration sur la fourniture des matériaux. Donc on est quand même sur un système où les matériaux seront nécessaires, mais dans 2 ans, dans 3 ans, pour certains chantiers, on n'est pas encore sur l'immédiateté. Donc il n'y a pas d'inquiétude.
Mais ce sera embêtant maintenant, mais on peut espérer que d'ici 2-3 ans, on ne soit pas confronté aux mêmes problèmes que ceux qu'on rencontre actuellement.
Voilà, on ne peut pas prévoir la conjoncture aujourd'hui, mais enfin, il y a des motifs espérés.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux, notamment parmi les membres de l'opposition métropolitaine, qui demandent un moratoire sur les travaux de la 3e ligne parce que eux estiment que le surcoût est bien plus important que celui annoncé ?
Alors, sur le surcoût, il y a 3 gros budgets. Il y a le budget système avec Alstom. C'est un marché qui était passé avant la période de crise. Donc, on est sur un prix qui est stable et qui est normal. On a le gros œuvre, c'est ce qu'on a vu récemment, avec une estimation aujourd'hui à 300 millions. On aura le chiffre final uniquement quand les appels d'offres seront traités et ouverts. Et puis on aura le surcoût du second œuvre. C'est plus modéré, c'est plus mesuré. Donc il y aura peut-être ou pas des surcoûts, mais on va rester dans une gamme de prix qui est adaptée au chantier constaté. Par ailleurs, Sacha Briand mène des procédures tout à fait intéressantes auprès de l'État, auprès du Parlement. Il a permis aux gardes de déposer un amendement qu'il avait rédigé pour essayer d'obtenir des ressources supplémentaires, des ressources nouvelles, non seulement en direction de l'État, mais en direction d'autres opérateurs qui peuvent participer au dispositif. Donc on est sur un dossier multi-azimut où on essaye bien sûr d'améliorer notre équilibre.
Mais ceux qui annoncent d'ores et déjà un surcoût d'un milliard, pour vous, ce sont des chiffres farfelus qui ne reposent que sur des...
Il faut les inviter à votre micro et leur demander pourquoi. En séance de Métropole, ils ne nous ont pas dit pourquoi. D'ailleurs, ils n'étaient pas d'accord entre eux, puisque certains annonçaient des chiffres, d'autres chiffres. Bon, c'est pas très sérieux. Nous, on se base sur des chiffres réels. Ils évolueront peut-être, mais on est aujourd'hui sur des chiffres réels.
Aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'estimer qu'il y aura un surcoût au-delà des 300 millions qui ont été annoncés. C'est ce que vous répondez. On va parler de Téléo maintenant, puisque le téléphérique Urbain Sud, maintenant, fonctionne tout à fait normalement à plein régime, mais il a rencontré un certain nombre de problèmes et de pannes depuis sa mise en service, notamment en juin dernier, certains doivent s'en souvenir. Où en est-on aujourd'hui? Tout fonctionne normalement? Les causes de ces problèmes techniques ont été identifiées?
Alors, il faut savoir que la disponibilité du Téléo aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle est supérieure à 98%. Donc, le temps d'arrêt de Téléo pour panne est toujours inférieur à 2%. Ces pannes, c'était quoi? On a eu des arrêts qui étaient prévus, arrêt pour orage, puisque quand il y a un orage, on arrête le système. On a eu un problème technique, c'est qu'on a fait sortir, l'opérateur a fait sortir les cabines en les laissant trop près, et donc il a fallu tout arrêter pour tout remettre en ordre. Mais ça, c'était pas une panne, c'était un problème purement technique. On a eu un problème électrique qui a été résolu, et un problème informatique qui a nécessité une maintenance assez lourde. Mais le système lui-même n'a jamais connu de panne, le système dans sa mécanique, entre guillemets. Donc voilà.
Pas de problème de fond.
Alors c'est spectaculaire, c'est spectaculaire. On a immédiatement mis en place un système de bus de remplacement, mais Téléo, on m'en a parlé en juin, je note que depuis juin, les choses vont plutôt bien. On a encore quelques réglages informatiques à effectuer, mais la structure de l'outil reste tout à fait fiable et connaît un grand succès auprès des Toulousains. Moi, je vois beaucoup d'amis qui me disent on est allé prendre Téléo pour prendre Téléo. Pas pour se déplacer d'un point à un autre.
Pour la vue aussi.
Pour la vue, pour... voilà. Le succès auprès des vélos est considérable. Il suffit de se mettre près de la queue de Téléo pour voir passer des dizaines de vélos. L'autorisation qu'on a donnée de prendre son vélo dans Téléo connaît un succès absolu. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je pense que les Toulousains en sont fiers. Je ne cesse de recevoir des villes qui viennent visiter. On avait le Pays Basque la semaine dernière, on aura Bordeaux dans quelques jours. Le président du GART, Louis Nègre, vient début novembre. Donc c'est vraiment devenu une attraction technique et les villes qui s'intéressent à ce type d'outils sont en train de venir en masse visiter le téléphérique toulousain.
Et voilà, Toulouse est pilote aussi dans ce domaine.
Je pense.
Concernant Tisséo, maintenant plus largement, et notamment les lignes de bus, il y a du nouveau aussi sur les lignes Linéo. Et ça aussi, c'est une actualité brûlante.
Alors, Linéo, c'est un dispositif qui s'est développé dans le mandat précédent. C'est un dispositif dont on parle peut-être pas assez. On parle beaucoup du métro, du téléphérique. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est peut-être Linéo. Linéo, c'est quoi? Ce sont ces bus rapides qu'on a mis en place avec des couloirs bus agrandis, avec une fréquence très améliorée, avec une information passager très forte. On a créé 9 lignes dans le mandat précédent. On a inauguré la 10e il y a quelques jours, le Linéo 10, sur la partie nord de Toulouse.
C'est Fenouillet-la-Vache.
Fenouillet-la-Vache. On va inaugurer en janvier le Linéo 11, Cugnot-Frouzens. On a un projet de Linéo 12 sur la partie est, qui est vraiment, vraiment intéressant. Quand on lance une ligne Linéo, la progression immédiate est de 15 à 20%. Sur le long terme, on fait du 30%. Le plus spectaculaire, c'est le Linéo 1, prévu pour 16 000 jours, qui fait aujourd'hui 26 000 jours. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est intéressant. Ça montre que le bus, c'est pas quelque chose qui est désuet, c'est quelque chose qui peut être utile si le service est de qualité.
Et puis il doit y avoir un effet report en ce moment avec la pénurie de carburant, c'est-à-dire que les gens laissent la voiture et se dirigent vers les bus.
Alors, cette semaine, on est en vacances scolaires, donc ça baisse un peu, mais la semaine passée, le directeur du réseau me disait qu'on était sur une jauge haute parce qu'il n'y a pas moins cher que le transport en commun et puis ça ne consomme pas d'énergie propre.
Le succès des lignes Linéo ne se dément pas. Bien, voilà donc ce que nous pouvions vous dire, d'une part sur le chantier de la troisième ligne de métro et sur l'actualité des autres transports en commun administrés par Tisséo Collectivité. Merci infiniment Jean-Michel Latte d'avoir été l'invité de cette émission et d'avoir fait le point pour nos auditeurs. Pour ceux qui souhaitent suivre le chantier de la troisième ligne et l'actualité de Téléo, je les invite à consulter le site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie projet, rubrique troisième ligne de métro et téléphérique urbain sud. Vous pouvez également bien sûr consulter le site de Tisséo Collectivité à l'adresse www.tisseo-collectivité.fr. Ce numéro de Métropole Polez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite à tous un agréable week-end de la Toussaint.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.